7h20 à Paris, c'est un marathon qui se poursuit pour tenter d'avancer dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour la protection de l'environnement. Après la COP de Cali sur la biodiversité, la COP de Bakou sur le climat, les négociations sur le plastique continuent à Busan et la COP des désertifications débute lundi en Arabie Saoudite. Un point commun entre les deux premiers de ces rendez-vous qui se sont conclus, des résultats bien en deçà des attentes et de l'urgence. Et une question, le fonctionnement actuel de notre diplomatie climatique est-il utile et peut-il changer? Notre invité pour en parler, bonjour Gaïa Fèvre.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable des politiques internationales au sein du réseau Action Climat. Alors qu'une énième rencontre internationale sur le climat et l'environnement semble patiner, je le disais, à Busan, en Corée du Sud, les négociations pour un traité juridiquement contraignant sur la pollution plastique sont encore loin d'aboutir. Elles doivent se terminer demain en principe. Et le premier texte de synthèse révélé hier ne satisfait pas les ONG. Quelles sont ses limites et ses manques ?
Je dirais que on a un besoin d'avancer en effet sur contrôler la pollution plastique et ça pose la question finalement de nos moyens de consommation également et ça pose la question des énergies fossiles et on l'a vu également dans les négociations climat, c'est particulièrement difficile de couper le robinet des énergies fossiles parce que ça demande cette fameuse transformation de notre économie, ce qui est particulièrement difficile et au-delà des mots, ça pose la question en effet de comment on va le faire, l'implémentation. Et je pense que c'est là où ça coince tout particulièrement.
Mais on voit des pays producteurs comme la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Inde, l'Iran, freiner des quatre fers sur les termes employés dans le traité sur le plastique. Des négociateurs font état de manœuvres d'obstruction de leur part et même d'espionnage des échanges dans les groupes de travail. Il y a une volonté chez certains de faire dérailler ces discussions.
Je dirais qu'il y a une volonté chez certains, en effet, de ralentir le plus possible le fait de fermer le robinet des énergies fossiles parce que ça s'attaque finalement à leur économie, à leur moyen de production, leur PIB, et c'est là que ça coince. Et donc, en effet, si on ne trouve pas des solutions pour compenser en quelque sorte ces pertes-là pour ces pays ou proposer des systèmes alternatifs, on aura toujours ces systèmes de blocage. C'est également ce qu'on a vu à Bakou, à la COP climat.
Oui, justement, à la COP 29, où vous étiez d'ailleurs, Gaïa Fèvre, des manœuvres de blocage qui ont réussi, avec notamment le retrait des textes finaux de cette mention spécifique obtenue l'an dernier à la COP 28 sur la sortie des énergies fossiles. Là, c'était l'Arabie Saoudite qui était à la manœuvre. Elle a été accusée d'avoir ralenti pas moins de 5 conférences cette année, d'avoir elle-même modifié des lignes du texte final avec la bénédiction de la présidence azerbaïdjanaise. Comment est-il possible qu'un pays soit laissé avec autant de pouvoir de nuisance?
Parce que généralement, c'est pas un seul pays. Peut-être un pays concentre l'attention, notamment médiatique et peut-être un peu politique. Mais en soi, d'autres pays qui sont producteurs et exportateurs, on peut penser aux États-Unis, on peut penser au Canada, sont pas non plus fer de lance, on va dire, sur la sortie des énergies fossiles. Ce qui s'est passé à Bakou, c'est que c'était une COP qui se concentrait beaucoup sur les aspects de finances. Et il y a eu comme une prise en otage de tout ce qui était autour de l'atténuation, de la réduction des gaz à effet de serre, avec une concentration de l'attention sur les aspects de négociation finance. Au-delà du fait qu'on n'a pas réitéré le langage sur la sortie des énergies fossiles et le paquet énergie qu'on avait gagné durement à la COP 28, on reconnaît tout de même tout le travail, on réaffirme la reconnaissance du bilan mondial puisque le paquet énergie était dans le bilan mondial. Et le blocage, comme vous disiez, on l'a vu à la COP, mais on l'a vu également au G20, dans la déclaration finale du G20 qui était en même temps que la COP le 19 novembre. On ne retrouve pas le paragraphe spécifique de la sortie des énergies fossiles, mais on retrouve les autres paragraphes. Et en effet, c'est très inquiétant. Et donc, il est nécessaire pour les pays comme le Canada, les États-Unis, de faire obstruction et ne pas laisser l'Arabie Saoudite empêcher les avancées. Parce que pour espérer fermer le robinet des énergies fossiles, on a besoin de cette volonté politique pour espérer également avoir moins à travailler sur l'adaptation et les pertes et dommages.
Des pays riches, des pays occidentaux qui ont d'ailleurs été accusés par des ONG dont la vôtre, le réseau Action Climat, d'avoir eux-mêmes saboté les discussions sur un autre point, celui du fonds destiné aux pays en développement. On rappelle le montant annoncé très en deçà des attentes, 300 milliards par an d'ici 2035. Comment ont-ils fait pour arriver à leur fin ? pour saboter ces discussions ?
Il s'avère qu'on était sur un moment de redéfinition de notre objectif collectif financier. À la COP de Copenhague, on avait dit 100 milliards, donc il fallait nécessairement augmenter puisque les besoins pour atténuation, adaptation, perte et dommage ne font en effet qu'augmenter puisqu'on ne ferme pas le robinet des énergies fossiles. Et il s'est avéré qu'on a obtenu seulement 300 milliards. Et ce qui s'est passé, c'est que les pays développés ont sorti un chiffre à la dernière minute, le vendredi. On a eu une extension ensuite de 36 heures de négociation où beaucoup de pays, notamment du Sud, ont clairement dit que c'était irrespectueux que les besoins se chiffraient en trillions. Donc, dans le texte, on a également une sorte de feuille de route qui doit nous conduire à réussir à avoir 1300 milliards. Mais là, pour le coup, ça pose la question de la qualité des financements.
Vous faisiez d'ailleurs partie des ONG, je crois, qui plaidaient auprès des pays pauvres pour un refus de cet accord avec cette formule « mieux vaut pas d'accord qu'un mauvais accord ». Pourquoi est-ce que ça aurait été préférable, selon vous ?
Ça, c'était dans la dernière ligne droite où, en effet, on était clair sur le fait que le texte qui venait de sortir était totalement irrespectueux, ne prenait pas du tout en compte les besoins. Après ça, quelques mentions ont été ajoutées. Au moins 300 milliards, ce qui veut dire que c'est possible de faire mieux. Ensuite a été ajoutée cette fameuse feuille de route de Bakou à Belém, avec cette vision du 1300 milliards. Il y a la possibilité de travailler également sur les sources innovantes de financement, notamment la taxation sur les super riches, qui peut lever des milliards, qui a été engagée au G20. Donc en soi, on comprend que le multilatéralisme avait besoin d'une victoire, avait besoin d'un accord à Bakou, mais en soi, on a seulement eu les hooks nécessaires pour continuer la bataille.
Mais ce qu'on voit, c'est peut-être la principale limite du modèle des COP tel qu'il a été créé, le mode de décision par consensus, c'est-à-dire par unanimité, qui donne finalement plus de levier, plus de capacité de blocage aux États récalcitrants.
Je pense qu'il faut le voir dans l'autre sens, c'est que quand vous arrivez à avoir un consensus, quand vous arrivez par exemple à avoir l'accord de Paris et que tout le monde se dit on a une feuille de route commune et on travaille réellement pour sa mise en œuvre, on a quelque chose de très fort. Donc oui, le consensus c'est compliqué, c'est difficile, mais une fois que vous l'obtenez, eh ben vous avez quelque chose de beaucoup plus robuste sur lequel travailler.
Une autre limite peut-être, c'est aussi ce modèle un peu daté, notamment sur la question du financement et de la désignation des pollueurs historiques, l'Union européenne, les États-Unis, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande notamment, eux voudraient que de nouveaux États soient considérés comme ceux qui doivent mettre la main au portefeuille, comme la Chine, c'était au cœur des discussions à la COP. La liste des pollueurs historiques, elle est héritée du sommet de la Terre en 1992. Elle ne correspond plus à la réalité aujourd'hui.
Ce qu'il faut prendre en considération, c'est en effet les émissions historiques, mais aussi les émissions par capita. Et pour le coup, le Canada, les États-Unis ou l'Union européenne ne sont pas en reste si on fait une comparaison par rapport à la Chine. Et ce à quoi vous faites mention, c'était le fameux débat de l'élargissement de la base des contributeurs. Et oui, a été au cœur des discussions. Mais quand on regarde le texte, on voit que les pays en développement sont encouragés à contribuer aux 300 milliards et aux 1300 milliards. On voit également que la Chine, dans sa prise de parole en plénière en introduction, a annoncé le chiffre qu'elle mettait sur la table également en termes de contributions, ce qu'on appelle Sud-Sud. Donc il y a des contributions des pays en développement et de la coopération Sud-Sud. Donc on voit une légère évolution sur cet élargissement de la base des contributeurs, ce qui peut être dangereux parce que qu'est-ce que ça veut dire quand on vise tous les pays en développement dans la mesure où il n'y a pas de liste, il n'y a pas de critères. Donc qu'est-ce que ça veut dire par exemple pour le Nigeria qui a pris la parole en plénière justement pour rejeter ce texte-là, qui était très inquiète de dire on n'a que 300 milliards et en plus moi je vais devoir y contribuer, c'est ça que vous me dites, donc c'est assez inquiétant.
Merci Gaïa Fèvre, responsable des politiques internationales au sein du réseau Action Climat, invité d'RFI Matin. Très bonne journée à vous.